Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 40 de la deuxième série concernant la guérison, tellement que la guérison est importante. Le titre pour aujourd'hui sera « Suivons l'exemple de Jésus ». Aujourd'hui, alors que l'Esprit-Saint inonde l'Église, parfois appelé renouveau charismatique, nous apprenons une vérité fondamentale et pourtant si simple. À défaut de trouver une expression plus appropriée, nous l'appelons la loi des premières manifestations. L'Église a usé de toutes les ruses et toutes les approches humaines. Ses rites et ses cérémonies n'ont pas permis à Jésus-Christ de se manifester à travers le pouvoir de l'Esprit-Saint. Ils ont révélé son ombre, mais ne l'ont pas révélé en substance comme le puissant sauveur et guérisseur, comme le libérateur de l'humanité enchaînée. La loi des premiers événements peut être interprétée ainsi. Dans le cas d'un retour aux traditions originelles, nous obtiendrons les mêmes résultats que dans le Nouveau Testament. Nombre de chefs religieux insistent sur le fait qu'ils ont amélioré les anciennes méthodes. Or, si leurs méthodes améliorées pouvaient amener des signes, miracles et merveilles plus grands par l'Esprit Saint, nous les croirions. Cependant, tout comme au temps ancien d'Israël, elles semblent n'être que du vent. Isaïe chapitre 26, verset 18. Lorsque Jésus, le second Adam, lorsqu'il est venu en ce monde, ce n'était pas pour l'améliorer, ni pour recréer ou renforcer les sectes des pharisiens et des sadducéens, deux courants majeurs du judaïsme. Il est venu afin de bâtir une création et une église nouvelle. Il dit « Je bâtirai mon église » Saint Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a institué de nouvelles approches et de nouvelles méthodes totalement, on peut dire, inédites pour le clergé juif. Et ils l'ont défié, affirmant qu'il chassait les démons au nom de Belzébuth. C'est affreux. Mais il leur a simplement répondu, « Voyons, en quel nom vos enfants les chassent-ils ?» Je crois que ça leur a cloué le bec. Cette question les a tout de même embarrassés, car ils étaient impuissants malgré leurs traditions et leurs cérémonies, et ils essayèrent, tout comme les sept fils de Séva, mais cela eut peu d'effet. Nous y voyons un parallèle avec aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque Jésus se manifestera à nouveau par le pouvoir de l'Esprit-Saint à travers son corps oint, sa véritable Église, eh bien, croyez-moi, nous verrons à nouveau les démons chassés dans sa véritable Église. Nous verrons à nouveau les malades guéris et chaque cité en liesse. Ainsi, le jour où l'Esprit-Saint se répand à nouveau et celui où l'Église doit agir telle que Jésus l'a toujours recommandé, accomplissez, a-t-il dit, des œuvres encore plus grandes que les leurs. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Oui, dans ce CD, nous souhaitons montrer qu'à notre époque, chasser les esprits malins doit être une pratique normale, voire obligatoire, et non quelque chose de très exceptionnel. Certains pasteurs terrifiés conseilleront à mauvais escient que ceux qui obtiennent les mêmes résultats que dans le Nouveau Testament sont des chasseurs de démons. Cela sous-entend que certains s'adonnent au maccartisme spirituel. Et ils vont partout, ces gens-là, chasser les démons, même là où il n'y en a pas. D'autres, tout aussi effarés, suggèrent de ne laisser cette charge à certaines personnes, se gardant ainsi d'y participer, sous prétexte que ce n'est pas de leur ressort. Un pasteur nous a déclaré un jour « Je n'ai pas été appelé à prêcher tout l'évangile. » Des mots tels que « évangélique » ou « évangile complet » n'ont aucun sens, à moins de réaliser qu'il n'y a qu'un seul évangile appelé l'évangile du royaume. Il s'agit de l'évangile dans son intégralité. Jésus l'a souligné en déclarant au clergé impuissant « Si je chasse les démons par la main de Dieu, alors le royaume de Dieu est indubitablement sur vous. » Saint Luc chapitre 11 verset 20. Il semble ainsi que la preuve même que l'évangile est réel vienne de la démonstration du pouvoir de Jésus en son Église sur le pouvoir de Satan dans le monde et l'Église terrestre. Pour revenir aux premiers événements survenus lors de la présentation de l'Évangile, les démons se manifestaient très régulièrement et ils ont été chassés d'abord par Jésus et puis ensuite par ses disciples. Et oui, ce n'était pas une histoire de maccartisme. Les démons étaient incapables de se cacher en présence de Jésus. Ils hurlaient de terreur. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui poussent des cris de terreur si l'on suggère que l'Église doit être libérée de toute entrave imaginable que Satan lui a imposée à travers ses esprits mauvais. Lors de sessions de prière, lorsque l'évangile du Nouveau Testament est montré autant que prêché, les avis sont partagés. Certains se réjouissent de voir que de tels pouvoirs sont accordés au Fils de l'homme, Saint Matthieu chapitre 9 verset 8, et d'autres sont bouleversés de voir que leurs chers amis chrétiens fassent preuve d'une telle libération lorsque le nom de Jésus est employé pour susciter la foi. D'autres s'y opposent. Où que l'on regarde, Dieu restaure aujourd'hui son pouvoir et son autorité longtemps perdues sur l'Église. Les malades sont guéris, les démons s'échappent en criant. Il y a quelques années, beaucoup décriaient le fait de parler en langue comme étant le signe d'un baptême par l'Esprit Saint avant que leur esprit ne s'éveille, de même aujourd'hui. Beaucoup suivent les enseignements de l'Esprit-Saint après avoir vu la manifestation de l'évangile du royaume et ils se réjouissent avec nous. Gloire à Dieu. Les membres de l'Église du Vrai Testament sont les doigts de Dieu, tout comme Jésus. Jésus est le bras de Dieu qui se tend depuis les cieux et nous en sommes les doigts. Psaume 98, verset 1. Nous devons donc chasser les démons au nom de Jésus et libérer les hommes. Dans une session de prière à Brooklyn, une jeune femme priait assise, les yeux fermés. Soudain, elle sentit sa gorge se serrer et elle se raidit. Elle ignorait que nous étions là. Je parle des responsables de l'organisation. Plusieurs jours après, elle est venue pour prier. Un esprit de peur la hantait, lui faisant craindre les autres. C'était un esprit puissant, et lorsque nous l'avions expulsé au nom de Jésus, son corps s'est tendu et elle s'est mise à trembler de tout son être. Après une demi-heure de prière impérieuse, elle fut libérée. C'était une jeune fille saine, baptisée dans l'Esprit Saint. Un autre dimanche, et je parle toujours des responsables de cette campagne d'évangélisation, un autre dimanche, nous nous sommes rendus à la réunion du soir, à peu près au même moment. Lors des chants de louange, une femme commença à louer Dieu et son visage se tord. Ce visage s'est tordu horriblement. Elle fut même prise de convulsions. Elle se comporta comme un démon. Elle gémissait, pleurait, offrant un terrible spectacle. L'évangéliste, il a pu expliquer au pasteur de cette église que c'était un démon qui s'emparait d'elle. Et il est descendu de l'estrade et il a expliqué à cette femme qu'elle devait être libérée de l'emprise d'un esprit lié très puissant. Elle a fait preuve de coopération et elle a accepté que l'on prie pour elle lors de la réunion. Lorsque, et je parle toujours, quand je dis nous, c'est donc ceux qui ont donc organisé cette manifestation de guérison. Lorsque nous avons finalement réussi à vaincre l'esprit et à l'obliger à sortir de son corps, ce fut une vision impressionnante. La femme tomba presque de son siège. Elle se donna des coups et cria avec force, alors que les démons s'échappaient de son corps. 15 minutes plus tard, elle était reposée et totalement paisible. Elle avoua se sentir parfois très mal à l'église. Et la simple présence du serviteur de Dieu suffisait à tirer les démons de leur silence. Tout comme à la synagogue de Capernaum, lorsque Jésus prêchait, le pouvoir du Christ ressuscité est revenu. Je dois vous avouer une petite anecdote où j'ai plutôt honte. C'est toujours difficile de reconnaître certaines choses. Il y a fort longtemps, j'allais avec mon épouse à une église qui était conduite par un pasteur Daniel Guillaume Gentil. Et quand j'étais assis sur le banc, je me sentais chaque fois comme pris de malaise. Il me semblait que j'allais m'évanouir. C'était affreux. Je disais à ma femme, je crois que je dois descendre, parce que si je me rappelle, on pouvait descendre, je ne sais pas si c'était une autre salle au sous-sol, et puis peut-être il y avait aussi les toilettes, mais je devais aller vraiment pour essayer de me ravoir, parce que je ne voulais pas tomber évanoui devant tout ce monde autour de moi. C'est très... Vous comprendrez que cela est quelque chose d'épouvantable de se montrer à toute une assemblée d'église qu'on a peut-être un beaucoup plus gros problème que simplement un rhume. Je plaisante. Et il a fallu vraiment chasser ces démons. Ça s'est fait quelques années plus tard, mais c'était un gros travail. Donc, si je vous redis, simplement c'est une ou deux phrases qui relatent exactement mon histoire, et j'exagère pas. Lorsque ils ont prié et réussi à vaincre l'esprit mauvais et à l'obliger à sortir de son corps, ce fut une vision impressionnante, car la femme tomba presque de son siège. C'est ce qui me serait arrivé. Et vous comprendrez que ce n'est pas drôle du tout devant une cinquantaine ou plus de personnes. Elle se donna des coups et cria avec force alors que les démons s'échappaient de son corps. Suite donc à son onction par l'Esprit Saint et à son baptême dans l'eau, Jésus a été entraîné par l'Esprit Saint dans le désert pour une mise à l'épreuve pendant 40 jours. En tant qu'homme, et non pas en tant que fils de Dieu, mais simplement en tant qu'homme, il devait d'abord être convaincu par Dieu. Aucun homme ne peut combattre efficacement Satan sans être convaincu de l'existence de Dieu. Après avoir prouvé qu'il était plus fort que Satan sur tous les points, il débuta sa mission, prêcher et montrer l'évangile du royaume. Lorsqu'il fut chassé de la synagogue de Nazareth, sa ville d'origine, il se rendit à Capernaum et enseigna aux Juifs le sabbat. Ils étaient ébahis par sa doctrine, car ses mots étaient puissants, différents de ceux du clergé. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 22, est confirmé par Saint Luc, chapitre 4, verset 32. Alors que le second Adam prêchait, l'inévitable se produisit. Des démons cachés depuis des centaines d'années se manifestèrent et se mirent à pleurer, implorant Jésus de les laisser en paix et de ne pas les envoyer au néant prématurément. Ils affirmèrent savoir qui il était, qu'il était l'élu sacré de Dieu. Saint Marc chapitre 1 verset 24. Voici un cas de la loi des premiers événements. Le clergé juif et les gens ignoraient qui était Jésus. Mais les démons, eux, le savaient. Tout comme aujourd'hui, le pauvre homme sous la coupe d'esprit impur ignorait probablement qu'il le tourmentait. Peut-être était-il un bon membre de la synagogue, tenu en haute estime par sa famille, ses amis et les rabbins. Il aurait célébré quelques offices à la synagogue et n'aurait jamais pensé abriter des esprits impurs en lui. Le mot « impur » renvoie à la nature impure, impie de ses esprits, et cet adjectif décrit de manière générale la nature des démons. Les particularités que ces esprits ont fait ressortir chez cet homme ne sont mentionnées nulle part. Il s'agissait peut-être d'esprits qui rendaient infirmes, ayant causé une maladie physique, où cet homme présentait des singularités et des tendances excentriques qui le rendaient un peu bizarre. Bizarre, on peut bien le dire, auprès de ses amis. Il peut s'agir d'esprits religieux, contrefaisant une spiritualité mêlée d'hypocrisie ou un comportement moralisateur. La personne peut avoir des difficultés à contrôler ses émotions ou ses pensées sont impures. C'était mon cas au temps où je risquais de tomber carrément du banc. Nous ne saurons jamais quelle est leur nature, mais nous savons qu'ils étaient des créatures vivantes pétries de désirs impurs, qu'elles transmettaient aux humains, leur permettant ainsi d'entrer dans leur vie. Elles ont parlé, elles ont reconnu et elles ont obéi. Un esprit malin doit user d'un corps comme réceptacle pour manifester sa nature. Jésus ne s'est pas rendu à la synagogue en quête de démons. Grâce aux dons de l'Esprit Saint, il savait exactement combien de démons se trouvaient là. Il connaissait leurs noms. Et quand chacun s'était initié dans la vie des Juifs, oui, il savait aussi que ses prêches les agiteraient et les enfiévraient, parce que on peut se sentir drôlement mal, car ces mots seraient pareils à la fumée utilisée contre un nid de frelons. Eh oui, certains ne touchent pas aux frelons, moi non plus, redoutant leurs piqûres, et continuent de respecter les rites. Jésus, quant à lui, il est venu pour libérer les hommes, car il leur a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit du Seigneur, de Yahvé l'Éternel, de mon Père Céleste, est sur moi pour prêcher la libération aux prisonniers. Saint Luc 4, verset 18. Ces esprits de servitude ne peuvent être dominés qu'en les forçant à se révéler, puis en les chassant. C'est ce qu'il a fait. D'après les textes, Jésus l'a vaincu, lui ordonnant de se taire et de sortir de ce corps. L'esprit impur s'est extirpé de l'homme. Ils sortent souvent en se frayant un chemin par la gorge, entraînant parfois du mucus. Ça m'est arrivé, c'est terrible, personne ne peut le croire, et cause même des saignements. et l'esprit poussa un cri aigu de terreur et sortit. Le problème était résolu. Alléluia. Jésus avait délivré un homme. C'était la première confrontation réussie entre Jésus et Satan après sa mise à l'épreuve de 40 jours. Il a sans cesse montré ce qu'il avait déjà attesté, qu'il n'était pas venu pour prêcher et guérir, mais pour délivrer les hommes. Ceux qu'il a libérés furent délivrés, délivrés de l'emprise de Satan, car les textes le disent, afin que ceux qui ont été faits prisonniers par le démon puissent se libérer de son emprise. 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. Aujourd'hui, dans nos églises, des centaines de milliers de gens sont soumis à la volonté de Satan, mais ils ne le savent même pas. Une pauvre femme infirme pendant 18 ans était prisonnière de Satan, Saint Luc, chapitre 13, versets 11 à 16. Cette histoire nous raconte que le pouvoir de Satan s'exprimait par un esprit d'infirmité, littéralement traduit par esprit de faiblesse. Je vous dis, j'avais cet esprit de faiblesse à tel point que je croyais de tomber du banc. L'infirmité aurait pu être causée par l'arthrite, mais un démon en était à l'origine. Aucun médicament ne peut détruire un démon, bien qu'il puisse endormir les cellules sensorielles du corps humain, freinant ainsi l'œuvre du démon. L'injonction de croire au nom de Jésus est nécessaire pour délivrer ses prisonniers. Ce n'est pas le tout, à Belle-Idée ou ailleurs, de donner des calmants puissants. Ça endort simplement les mauvais esprits, mais ils sont toujours là. Toujours. Peut-être est-il tout aussi bon de se rappeler une vérité spirituelle qui n'est pas toujours admise. Tout ce qui est bon vient de Dieu, on est bien d'accord. Par l'action de l'Esprit Saint, le troisième composant de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. La Bible les nomme bénédiction, Deutéronome, chapitre 28. Mais toutes les mauvaises choses, elles ne sont pas des bénédictions. Ce sont des œuvres de Satan appelées malédictions. Il n'existe aucune force spirituelle tierce autre que nous-mêmes. Nous sommes à mi-chemin entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre l'Esprit Saint et l'Esprit malin. Nous seuls décidons quelle force, quelle puissance Dieu ou Satan nous contrôlera. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous sommes les serviteurs de celui à qui nous obéissons, pécheurs jusqu'à la mort ou obéissant à la droiture. Romains 6, verset 16. Nous restons prisonniers jusqu'à ce que Jésus nous délivre du joug du démon pour savourer la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dieu agit par l'Esprit Saint, par lui-même. Satan, lui, il agit par l'entremise de millions de démons, ses agents. Pourquoi a-t-il besoin de millions de démons? Car, tout simplement, il n'est pas omniprésent. il ne peut que se liguer avec de nombreux complices. Il imite ainsi l'œuvre de Dieu. Il est le père de tous les mensonges et le faussaire par excellence. Il trompe les chrétiens. Seul le fait de réapprendre à prier à la manière de Jésus contre ces viles forces démoniaques nous permettra de guérir et de délivrer ceux qui sont opprimés par le démon. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Chers amis, ce CD a pour but de montrer que la source du mal est spirituelle. C'est l'œuvre de Satan à travers ses démons. Ainsi, il ne faut pas être terrifié quand des esprits malins sont chassés du corps de malades lorsque nous récitons la puissante prière d'injonction à croire. Peut-être devrons-nous revoir notre théologie sous l'angle d'une nouvelle expérience. Dans le premier cas de délivrance à la synagogue de Capernaum, quand des paroles indignées furent sorties de la bouche du pauvre juif possédé, Jésus ordonna aux démons de garder le silence. Nous avons souvent entendu les démons parler et donner leur nom, et nous pensons qu'il est mal avisé de converser avec eux, bien que nous ayons prouvé que c'était possible. Ils s'en réjouissent, car ainsi ils peuvent fanfaronner et s'accrocher un peu plus longtemps à leur réceptacle. Notre but est de tous les expulser, et cela le plus vite possible. Ces dernières années, des enregistrements authentiques de démons en train de parler et de crier ont été réalisés, même s'ils servent à attirer l'attention sur cette mission de délivrance. Ces enregistrements, attention, suscitent une fascination morbide, et cela à la manière d'un film d'horreur. Et les personnes effrayées ou sceptiques peuvent, croyez-le ou pas, être possédées en les écoutant. Aujourd'hui, le seul refuge est de savoir que nous sommes couverts par le précieux sang de Jésus-Christ. La Bible nous met en garde contre toute conversation avec les démons. Isaïe, chapitre 8, verset 19. Lorsque d'autres nous incitent à écouter les esprits malins chez les médiums, les spirites, les magiciens ou les diseuses de bonne aventure, tous ces murmures et rumeurs, eh bien, croyez-moi, nous sommes obligés, nous devrions être obligés de n'écouter que la parole de Dieu et non pas les voix des défunts en tant qu'êtres vivants. Car participer à ces séances, c'est s'exposer au risque d'une possession démoniaque, car nous baissons les armes qui, devant les démons, auront un impact négatif et ils en tireront vite profit. Nous avons donc délivré, et je reviens à cette mission de délivrance, nous avons délivré une femme qui célébrait des offices religieux dans une église. De démons très puissants étaient là, qui la tourmentaient depuis des années, causant chez elle des visions, des hallucinations, voire même, et il faut quand même qu'on le dise, des prophéties. jusqu'à ce qu'elle assiste à l'un des offices du Nouveau Testament à Toronto. Et ses démons ne pouvaient rester silencieux plus longtemps. Et ils ont commencé à tourmenter la pauvre femme. Il a fallu plusieurs prières insistantes pour finalement les expulser. Ce n'a pas été simplement en claquant des doigts. Et là encore, ils ont essayé de la posséder à nouveau. Et la pauvre femme a vécu des instants difficiles. Voyez-vous, désobéir à Dieu n'amène rien de bon. Nous ouvrons la porte aux esprits trompeurs et aux anges de lumière. Peu de temps après le premier cas de la loi des premiers événements, Jésus s'est rendu de la synagogue de Capernaum à la maison de l'apôtre Pierre. Là, la belle-mère était alitée, fiévreuse et probablement délirante, car elle avait environ 42 de fièvre. Elle souffrait d'une maladie grave et les antibiotiques n'existaient absolument pas du temps de Jésus. Quel malheur! Nous tenons à souligner que ces faits ont été relatés par un médecin, Saint Luc. Ce ne sont pas les dires d'un pécheur totalement ignorant ou d'un questionneur arrogant, mais d'un praticien qui n'était pas sujet à des hallucinations ni n'échafaudait certaines hypothèses. Non, il n'a pas dit si Jésus s'est servi d'un thermomètre ou s'il a peut-être pris le pouls de la femme. L'usage d'aspirine n'est même pas évoqué. Voici donc un cas de guérison d'une maladie qui était bel et bien physique, une fièvre très violente, voire une femme d'âge moyen, une mère respectée, en proie au délire, et tout sauf très agréable, et sans la présence de Jésus-Christ comme étant celui qui guérit, cela peut susciter beaucoup d'appréhension. Prendre le pouls et la température ne peut que accroître notre peur au point de sembler prêt à appeler le médecin, l'infirmière, n'importe qui susceptible de nous aider. Nous enverrons peut-être quelqu'un chercher des médicaments à la pharmacie, mais qui pense à envoyer chercher Jésus? Qui pense au Seigneur? Même si certains ont la délicatesse d'appeler le pasteur après le passage du médecin pendant que l'infirmière s'occupe du malade, à quelle prière s'attendre de sa part? Ou celle qui ordonne de croire, comme lors de ce premier événement, ou une prière pour guider le corps médical, ou encore une prière pour demander à Dieu d'accorder la patience dans la souffrance. Quelqu'un enverra-t-il des fleurs afin d'apaiser la douleur et la faiblesse et de témoigner son affection? Recevra-t-on de nombreuses cartes de souhaits, un bon rétablissement, certaines cartes avec des images amusantes? Voilà comment pensent les générations actuelles. Nous faisons tout sauf prier Jésus-Christ pour nos proches malade. Il est donc temps de revenir à la loi des premiers événements. Nous obtiendrons, croyez-moi, les mêmes résultats à ce moment-là, sans avoir besoin ni de cartes de vœux, ni de fleurs, ni de médicaments, et osons le dire, ni d'un médecin, lorsque nous avons Jésus-Christ comme docteur, lui qui n'a jamais échoué lorsque il a été invité à venir avec amour et foi. Croyez-moi, j'ai eu des arythmies terribles. Oh, je pense depuis au moins, je ne veux pas dire quelque chose à la légère, mais je pense depuis 40 ans, environ. Et les derniers temps, d'une façon inquiétante, je devais même aller trouver des cardiologues qui me donnaient des médicaments assez spéciaux. C'était pas drôle du tout, avec des effets secondaires. Jusqu'au jour où un couple de pasteurs à la retraite, d'amis véritables, ont prié et ça s'est rapidement amélioré, et même c'est devenu presque régulier. C'est le jour et la nuit. Si Jésus, chers amis, ne dispose pas de moyens médicaux, pourquoi le lui demander? Il est faux de croire que Jésus ignorait tout des antibiotiques et des médicaments, car ses connaissances ont été révélées à l'homme par Dieu au cours des dernières années. Jésus n'a pas besoin d'employer des méthodes naturelles, car il est venu pour user de moyens surnaturels. Il veut aussi que nous recourions aux mêmes moyens surnaturels aujourd'hui. Il n'a pas donné du belloc, comme ce fut pour mon cas. Regardons ce qui s'est passé. Tout d'abord, il s'est penché sur elle. Pourquoi? Mais parce que c'est la position à adopter lorsque on traite une maladie. Dieu a donné à ses enfants le pouvoir de dominer toutes les créatures. Genèse chapitre 1 verset 28 et Psaume chapitre 8 verset 6 à 8. Et tous les microbes sont, je crois, des êtres ou des organismes vivants. Ils ne nous sont pas supérieurs par le Christ. Ils ne nous sont, au contraire, ils nous sont soumis par le Christ. Ça change tout. Nous les craignons car nous craignons la volonté de Satan. Lorsqu'il nous attaque, nous devons riposter comme Jésus l'a fait. Paul, l'apôtre, il nous dit de rester debout après avoir tout tenté. Éphésiens chapitre 6 verset 13. De ne jamais nous soumettre, voici ce qu'il dit. L'apôtre Paul, mais au contraire, de nous élever au-dessus du mal. L'autorité absolue que nous avons reçue, comme nous le lirons plus tard dans votre Bible, et moi je vous le dirai sur un des prochains CD, c'est de piétiner carrément les serpents et les scorpions. Le croyant doit toujours se placer en tête et jamais en queue de chêne. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Deutéronome chapitre 28 verset 13. La tête est celui qui surveille, celui qui gouverne, c'est le patron. Personne ne lui donne d'ordre, il les donne lui. Il ordonne lui aux microbes de partir et de mourir au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas fabuleux cela? La Sainte Bible nous le dit. Si Satan se voit ordonné de partir, comme dans le cas de la belle-mère de Pierre, et que celui qui ordonne le pense sincèrement, car Jésus a dit qu'il aura quoi? Il aura tout ce qu'il dira. Saint Marc, chapitre 11, verset 23. Alors Satan devra partir, eh oui. Combien de fois avez-vous parlé ces derniers temps? Combien de fois avez-vous donné des ordres à Satan et à ses démons lorsque des problèmes personnels ou la maladie sont restés sans issue? C'est en revenant à la loi des premiers événements que nous obtiendrons les résultats de l'évangile du royaume. Ce n'est pas Dieu qui a changé, mais c'est nous. Jésus a parlé depuis sa position d'autorité et de pouvoir. Sa parole était en effet puissante. Il pensait ce qu'il disait et il savait que Satan lui obéirait. Le but de sa venue en ce monde était de guérir, de libérer et de délivrer. Cette pauvre femme n'était-elle pas en situation de détresse? Jésus a parlé et il a ordonné à l'entité maligne à l'origine de la fièvre de sortir de son corps. Oui. Si ce n'est de l'exorcisme, alors qu'est-ce que c'est donc? L'on nous demande souvent quelle différence y a-t-il entre guérir et chasser les démons. Pour être franc, nous ne voyons pas de grande différence. Ces deux choses semblent indissociables. Il est impossible de condamner une chose dénuée d'intelligence. Nous ne pouvons condamner une chaise ou une table. Même les spirites doivent recourir à des démons pour faire tourner les tables ou de faire déplacer les chaises lors de leurs séances. Les tables et les chaises ne marchent pas tout seuls. Et les maladies ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Les médecins le savent très bien. Si la cause première est d'ordre spirituel, alors il est logique que Jésus fasse partir la fièvre. Eh oui, s'il y avait des microbes ou des virus, alors il ne pourrait plus exister. Lorsque la sainte parole de Jésus a créé un état physique particulier, ils ne peuvent que mourir. Rappelons-nous que Jésus a repoussé les esprits impurs et ils lui ont obéi. Les textes disent, ils étaient tous stupéfait au point de se demander les uns les autres, mais qu'est-ce donc tout cela? Quelle est cette nouvelle doctrine? Car il a même commandé aux esprits impurs, et cela avec autorité, et ils lui ont obéi. Saint Marc, chapitre 1, verset 27. aux yeux des Juifs qui se rendaient régulièrement à la synagogue et écoutaient les élucubrations de leur clergé, il s'agissait d'une chose et d'une doctrine nouvelle. Leur clergé ne leur avait pas appris à guérir les malades et à chasser les démons. Le docteur Luc, dans sa jeunesse, ne l'avait pas non plus appris, et il avait fait de son mieux pour aider l'humanité accablée. Il a étudié la médecine et il a sans aucun doute pris soin des malades avec beaucoup de compassion. Mais nombre de choses ne peuvent être guéries uniquement par des médicaments ou par la compassion. Jésus, le premier fruit d'une nouvelle création, a enseigné une chose et une doctrine nouvelle. En établissant un parallèle, nous n'essayons pas de dire que la situation est exactement la même aujourd'hui. Jésus nous montre une fois encore, à travers son Église, qui est ointe par son Esprit Saint, son corps même sur terre. Oui, et une chose totalement nouvelle, et nous enseigne une doctrine nouvelle. Aujourd'hui, la doctrine de la divine délivrance est révélée à l'Église. Jésus fut le premier à recevoir le doctorat de l'Église du Nouveau Testament. Mais il s'agit d'une délivrance divine. Dans le deuxième cas des premiers événements, Jésus a employé la même méthode. Il a condamné. Le mot « condamner » signifie faire porter le fardeau de la faute. Et à chaque fois que Jésus parlait et commandait à Satan, il lui faisait porter le poids de sa faute et l'écrasait là où il l'avait découvert. Autrement dit, la condamnation par Jésus écrasait Satan et ses démons, et cela au point de n'avoir d'autre solution que de déserter le plus vite possible un lieu devenu hostile pour eux. Même si certains s'y trouvaient depuis de nombreuses années, dès que l'esprit de fièvre avait quitté le corps de la belle-mère de l'apôtre Pierre, elle fut instantanément guérie. La force, l'oppression, le fardeau de la fièvre s'envolèrent et sa température redevint normale. Son pouls se calma. Mais aujourd'hui, dans ce même cas, la plupart d'entre nous exhorteraient leur mère à rester alitée jusqu'à ce qu'elle recouvre ses forces, et beaucoup de personnes paresseuses obéiraient volontiers. Mais cette femme, non, il y avait beaucoup à faire. Il y avait à entretenir la maison, à cuisiner pour les hommes présents, dont, en parenthèse, Jésus. Ce n'était pas le moment du tout de paresser. Quelle leçon à une époque où beaucoup cherchent à gagner beaucoup plus en travaillant beaucoup moins. Elle s'est immédiatement levée et elle s'est occupée d'eux. C'était une femme avec de l'esprit qui pensait qu'il fallait traduire notre foi en acte. Pourquoi rester au lit quand nous sommes bien portants? N'est-il point écrit « Ta force doit être à l'image de tes jours et aussi à nos faiblesses nous ont rendus forts. » Nos faiblesses nous ont rendus forts. C'est quand tu es faible que tu sera fort. Hébreux chapitre 11 verset 34. Si seulement nous pouvions réaliser que nous pouvons accomplir toutes choses par le Christ, même si nous sommes faibles, c'est surtout là que nous avons besoin de lui et c'est là qu'il va agir. Et parce que tant que nous avons l'orgueil d'être forts, il n'a pas besoin d'intervenir, évidemment. Alors je répète, si seulement nous pouvions réaliser que nous pouvons accomplir toutes choses par le Christ qui donne de la force et arrêter de geindre, de se plaindre et de récriminer au sujet de nos faiblesses, au sujet de nos douleurs et de nos maux, levons-nous pour répondre à notre grande vocation dans Jésus-Christ. Et je dirais pour terminer notre étude de ce matin, chers amis, prions-nous vraiment pour les malades de cette manière que nous venons d'entendre? La plupart d'entre nous ne prient pas du tout, car ils croient que cela ne sert absolument à rien. D'autres font peut-être partie d'une église qui prie pour les malades, mais certains n'y croient pas. Il suffit qu'un seul n'y croit pas du tout, que si vous êtes cinq pour prier pour quelqu'un qui est malade, la réponse ne viendra pas. Ne demandons-nous pas plutôt timidement à Dieu de guérir nos amis? Le faut-il? Ne devrions-nous pas plutôt être prêts et de repousser la maladie en son ou par son saint nom et s'attendre à ce que la maladie disparaisse? Pourquoi demander à Jésus de nous guérir s'il est évident d'après la Bible qu'il a guéri tout le monde lors de sa crucifixion au calvaire, car nous sommes guéris par son martyre dès à présent, par son précieux sang qu'il a versé? Notre rôle doit être d'agir en tant que défenseur de la loi de l'amour du calvaire. Bien sûr que je ne dirai jamais à qui que ce soit de abandonner immédiatement la seringue pour injecter l'insuline à son enfant qui risque de mourir. Nous avons besoin du corps médical, mais nous pouvons prier pour le corps médical, pour le chirurgien, et le Seigneur nous vient en aide partout et en tout. Demain matin, Dieu voulant, nous continuerons avec, je crois, ce sera le numéro 41, car il y avait déjà, je crois, au moins 80 CD dans la première série sur la guérison. Je crois qu'on va dépasser 100 études, une centaine d'études, uniquement sur le thème de la guérison, ce qui est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Demain matin, donc, la foi apostolique sera notre titre, à demain matin, Dieu voulant. Et nous prions maintenant ensemble, si vous le voulez bien. Loué sois-tu, car ton trône, ô Dieu, subsiste à jamais. Ton royaume dure d'éternité en éternité. Ta parole demeure. Tes années n'auront point de fin. Toi seul, ô Dieu, tu es saint. La droiture est le fondement de ton trône, le pavillon de ta demeure, la gloire des collines éternelles, la défense et la sécurité des cieux, là où se rassemblent les innombrables myriades des glorieux anges. Mais ici, ô Dieu, se trouve une créature tombée, c'est nous tous. Le péché est sans contester la violation de ta loi. Le pécheur que nous sommes s'est soustrait à ton gouvernement. Nous avons touché de nos mains impies l'épée flamboyante. Nous avons bravé ta vengeance. Il est vrai, Seigneur, que nous avons souvent contesté la justice éternelle et irrévocable. Aussi, nous te demandons, je te demande pardon. Merci pour ta grâce et ton amour inchangé envers nous. Et maintenant, nous te demandons d'imposer tes mains guérissantes sur ceux qui le demandent. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Au revoir.